Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue sur Young World on Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne pour que tu puisses te poser les bonnes questions sur ton aventure de freelance. Cette semaine dans le podcast, je t'emmène avec moi en Corse, où j'étais il y a 2 semaines en freelance travel, un voyage d'une semaine entre indépendants, pour travailler et vivre ensemble dans de beaux endroits. J'ai rencontré Alexandre Montbrun, qui est mon invité cette semaine. Avant de devenir freelance, Alex a mené une belle carrière, avec plus de 10 années en agence dans la publicité et le design, en passant notamment par Havas, CBA Design et Publicis. Et cela fait presque 6 ans maintenant qu'il est indépendant, et on a donc eu beaucoup de choses à se dire. Alors ce qui m'a tout de suite plu dans la démarche d'Alexandre, c'est sa capacité à se projeter dans sa vie professionnelle. Quand il se lance en freelance à 34 ans, il se pose déjà la question de ce à quoi ressemblera son activité quand il en aura 45. Et il prépare du coup la suite par petits pas. C'est donc le sujet de cet épisode, comment est-ce qu'on peut concevoir sa carrière de freelance sur le long terme, un peu comme ce qu'on ferait si on était salarié. Dans cet épisode, du coup, on parle de notre rapport à ce qu'on produit, surtout quand on est créatif et qu'on produit de l'art, entre guillemets, ou du design, du rôle de coordinateur de projet que les freelances expérimentés prennent de plus en plus sur leur mission. Et on se lève également à une question intéressante. Comment est-ce que, en tant qu'indépendant, on peut créer une sorte de structure, avec des gros guillemets, qui a de la valeur et qu'on pourrait potentiellement vendre un jour, comme on pourrait le faire avec une agence, tout en, du coup, restant 100% freelance et sans aucun salarié. Une question ouverte que tu verras à la fin de l'épisode. Bref, encore un épisode riche que j'ai hâte de te partager. Par contre, avant de se lancer, si ce n'est pas le premier épisode que tu écoutes et que tu reviens parce que tu aimes, le meilleur remerciement que tu peux me donner, c'est une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes et un avis positif pour me booster encore plus à continuer de créer tout ce contenu, même si, tu l'auras compris, j'ai pas forcément besoin que tu me boostes, mais ça fait toujours plaisir un petit remerciement. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet et à le porter à davantage de freelances comme toi, pour qu'ils puissent développer leur activité. Bref, sans plus attendre, je te laisse rejoindre Alexandre et moi en Corse, sur un canapé, à côté d'une piscine plutôt cool. On se voit de l'autre côté. Bienvenue sur le podcast, Alex.
Salut, Tom.
On est dans un super cadre pour donner un peu de contexte. On est en freelance travel avec Nolwenn,
hey,
qui passe aussi sur le podcast. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après toi, mais à un moment donné, vos routes se croiseront dans mon podcast aussi. Je suis très content d'échanger avec toi. On a beaucoup parlé de pas mal de choses cette semaine au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Mais du coup, on va se lancer dans la première question rituelle du podcast, c'est comment et pourquoi tu es devenu freelance?
Et ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé tous. Moi, ça fait 6 ans que je suis free. Et ce qui m'a intéressé dans nos discussions à tous, c'est que finalement, je remarque aujourd'hui, c'est un réflexe qu'on peut avoir finalement dès la fin de ses études. C'est une possibilité qui est envisagée tout de suite. Elle l'était moins à mon époque. Moi, je suis un petit peu plus vieux que la moyenne des gens ici. Et globalement, un peu plus vieux que les freelances qui sont sur le marché. Alors évidemment, il y en a quand même toute une génération qui a autour de la quarantaine. Mais globalement, cette solution du freelance était plus difficile à envisager à mon époque. Surtout quand je suis sorti de mes études autour de 25 ans. Où là, pour moi, le statut de salarié était une évidence. Parce que c'était comme ça.
Ouais.
Et j'avais évidemment comme fantasme d'intégrer des belles agences et de faire une belle carrière.
Ce que t'as fait.
Ce que j'ai fait en partie, oui. Alors, avec, on peut toujours être modeste, non. J'ai pas eu le parcours des stars de la pub, mais en tout cas, j'avais comme souhait, comme rêve d'intégrer des grandes enseignes, des grandes agences comme Avast ou Publicis, pour citer les plus connus. Et en tout cas, en tant que salarié, j'envisageais pas du tout le freelance. Pour resituer, on est donc en 2005. Et c'est vraiment une option qui est inexistante. Et c'est finalement après une dizaine d'années de salarié où, au cours de mes différentes expériences et agences, j'ai pris en responsabilité, j'ai pris en expérience, et ça m'a permis finalement d'accéder à ce qui était un peu un rêve quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, c'était intégrer ces grandes agences et un petit peu le star system de la pub qui me faisait rêver et que j'ai découvert finalement comme quand on est dedans, hein, beaucoup moins intéressant et beaucoup moins
Je valide pour avoir fait 2 ans aussi
ouais.
J'adore ce monde là et en même temps forcément il y a tous les inconvénients qui vont avec et j'aime bien dire qu'en fonction de ton statut ou ce que tu fais, tu choisis toujours un couple d'avantages et inconvénients. Et moi, les inconvénients de l'agence m'allaient plus, en fait.
Complètement, ouais. Ouais.
Et du coup, tu suis tout ça. À un moment, tu arrives au poste de directeur de création.
C'est ça. Donc, après avoir passé plusieurs étapes, hein, qui sont un peu les étapes classiques du graphiste.
Ouais.
C'est, moi, j'ai fait une école d'art, donc j'ai été tout de suite vocation créative. Donc, je voulais m'éloigner des travaux qui soit trop près de l'exé, qui soit trop près de la technique, donc du graphisme, la direction artistique, et puis un premier poste de directeur de création. Et suite à ça, il y a ma dernière agence qui était ma dernière expérience qui était chez Publicis. J'ai eu l'impression d'arriver au bout de quelque chose. Déjà, j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie. J'avais la conviction de jamais être d'accord avec mes responsables. Et finalement, d'avoir plus d'inconvénients que d'avantages. Et ce qui me faisait rêver était teinté de pas mal de moments frustrants, agaçants. Et j'ai saisi une opportunité qui m'a été offerte dans ma dernière expérience, qui n'a pas été la meilleure chez Publicis, où j'ai pu avoir tout simplement une rupture conventionnelle. Moi, j'ai l'impression, hein, pour en avoir beaucoup parlé, que le contexte administratif... quand on a été salarié longtemps, en tout cas, le contexte de, quand je dis administratif, c'est le contexte de lié à la nature d'une rupture de contrat.
Ouais.
Tout simplement déclenche la possibilité de se lancer en free. Mm. Pourquoi ? Parce qu'elle est financière. Quand on est freelance, on part avec rien. Quand on a 20 ans, 25 ans, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas effrayant. Moi, j'en avais presque 35.
Ouais.
Donc évidemment, l'équation n'était pas la même. Sans avoir de charge de famille, j'avais quand même des charges de vie forcément un peu plus élevées. Quand
Complètement.
on prend de l'âge, ça fait aussi partie du quotidien. Et je ne me voyais pas sacrifier ce confort matériel sans un minimum de sécurité. Donc en fait, c'est l'opportunité d'une rupture conventionnelle. En plus, j'avais un bon salaire en quittant Publicis qui m'a finalement permis de me lancer. Je me suis dit, j'y vais avec la sécurité d'un chômage. Et si ça marche pas, j'ai quand même de quoi payer mon loyer et continuer à vivre. Donc c'est finalement la jonction de ces deux éléments, la volonté de quitter le salariat. J'avais la sensation d'être arrivé au bout, d'avoir réalisé ce que j'avais toujours souhaité, intégrer une belle agence, avoir des postes à responsabilité. Et la conjonction avec cette opportunité qui m'était offerte de me lancer avec finalement un minimum de revenus. Et le troisième aspect qui n'est pas négligeable, je pense qu'il est important pour tous, c'est tout simplement l'entourage. J'avais autour de moi quelques amis qui avaient fait le saut. Et puis je les voyais satisfaits. Je les voyais satisfaits. Je voyais que le boulot semblait tomber facilement. Et j'avais quand même senti que le monde était déjà un peu en train de changer. Bon, j'ai pas non plus, je suis pas un dinosaure, hein. Mais je pense qu'on a tous constaté que le freelance, le mode de vie, le statut de freelance a explosé depuis ces dernières années.
Ouais, complètement.
En France, plus globalement. En Europe, chez les Anglo-Saxons, c'est différent. Je crois avoir vu que les Américains, c'est un tiers de l'activité
Ouais, c'est
qui
depuis longtemps là-bas que le freelancing, il est beaucoup plus dans les habitudes de travail des gens, en fait. Je pense que c'est même des plans de carrière que les gens se donnent de plus en plus tôt, même pendant les études. Et du coup, ouais, est-ce que moi, c'était pas du tout le cas à l'école, en fait. On nous coachait sur nos entretiens, on nous montrait la carrière en CDI qu'on pourrait avoir. J'étais à Dauphine en plus, du coup c'était très orienté grand groupe. Moi j'ai fait mon alternance en agence, donc forcément moi je pensais plus agence. Mais effectivement l'indépendance, c'est pas un truc qu'on nous présentait en mode tu peux être freelance en fait, et ça peut très bien marcher. Et on faisait pas venir de freelance, les intervenants c'était pas des indépendants et ils nous montraient pas ça du tout.
Ouais, en fait, il y a aussi ce constat que c'est des volontés, je pense, étatiques. Tu sais, quand on va prendre le succès de l'auto-entreprise, c'est la création d'un statut qui a créé des vocations, qui a créé des possibilités.
C'est vrai, c'est
Et c'est quand
intéressant
même
ça.
fou d'imaginer que c'est l'État, à travers les dispositifs, qu'ils soient financiers, fiscaux, administratifs, tout ce qui est lié à l'entreprise, à la création d'entreprise, c'est aussi un environnement qui aide ou pas
Ouais,
à ce que
c'est vrai.
chacun se lance dans sa propre activité. Peut-être que auparavant c'était plus compliqué, les statuts étaient plus complexes,
Ouais, ça doit jouer, c'est
dans
clair.
l'EIRL et compagnie, c'était sans doute plus délicat.
Et je pense qu'il y a aussi un facteur de... Forcément, aujourd'hui, avec tous les canaux de communication qu'on a, ce podcast, on est d'ailleurs la preuve, les gens prennent plus la parole. Parce que le freelancing, en fait, c'est vieux, hein. C'est pas un nouveau truc. Les photographes
Ah
ont
bah
toujours
oui,
été
tout à fait. Ouais,
indépendants.
carrément.
Il y a plein de professions qui ont toujours été très indépendants, genre les pigistes, les journalistes, par exemple, etc. Mais les gens ne parlaient pas de ce quotidien-là. Et je pense que ce qui a commencé à faire le switch, c'est quand d'autres professions, qui à la base n'étaient pas forcément des professions indépendantes, ont commencé à se dire, ah ben tiens, mais moi aussi, je pourrais faire ça tout seul, plutôt, et me vendre mon temps ou des prestations, plutôt que d'être salarié et de bosser toujours au même endroit. Je pense que le télétravail et le remote a commencé à déclencher ça aussi.
Ah bah c'est clair que la possibilité qu'offrait Internet à l'époque,
Ouais, c'est clair. Ben voilà. Et du coup, je
ça a
pense
tout changé.
qu'effectivement, mais l'État, c'est clair, ça joue un rôle. Chaque fois, il facilite les choses. Notre cher président, Monsieur Macron, a sûrement aussi
Ouais.
un avis là-dessus.
Bah là, en tout cas,
Peu importe ce qu'on
on
en
va dans ce
pense,
ouais. On va
non,
dans
pas
ce
en
sens-là.
politique. Mais et du coup, toi, je pense que, enfin, et tu me diras si je me trompe pas. Hein, après 10 ans en agence, plus de 10 ans en agence, quand tu te lances en freelance, tu dois pas avoir la même démarche que quelqu'un qui se lance à la fin de ses études. C'était quoi ta démarche du coup, genre
Ouais.
le premier jour que tu te lances, comment tu t'y prends au départ?
La grosse différence, au-delà d'appréhender le statut et ses contraintes financières ou administratives, c'était d'aborder la création un peu différemment. Quand j'ai démarré en tant que salarié, j'étais attaché à ma création.
Ouais.
Je sortais de l'école, j'avais eu un apprentissage où on m'avait appris à défendre mes idées, à protéger ce que je faisais, à avoir une patte. Et du coup, j'étais viscéralement attaché à tout ce que je pouvais faire. J'avais du mal à lâcher. C'était un conflit perpétuel avec mes responsables pour faire passer mes idées et ne pas les travestir pour satisfaire tel ou tel client.
Qui ne comprend pas l'art
Oui,
ou la création.
et puis en fait, très justement, qui passe une commande et qui a envie de faire.
Ouais.
Alors certains accordent plus ou moins de crédit aux agences et aux créatifs, donc c'est essentiel ça, hein. Les clients ne sont pas à même de le faire eux-mêmes, donc il faut qu'ils fassent confiance aux agences et aux créas. Mais quand on est salarié au bout de la chaîne, néanmoins, on doit nous aussi se plier à ces règles,
Ouais.
à celles tout simplement de séduire le client, l'annonceur. Et en fait, après 10 ans, je me suis détaché de ça. C'est vraiment la conviction que l'important en tant que free, c'était de trouver des clients, de réussir à répondre à leurs demandes au mieux, et me faire payer pour cela. Et évidemment, vu que mon travail et tout simplement l'activité que j'allais en tirer était directement liée à ça, à la satisfaction de mes clients, il était important de changer et de s'éloigner de cet attachement. Voilà, de me détacher de la créa pour me dire, je dois satisfaire mes clients pour
Ouais.
développer mon business.
C'est intéressant comme approche puisque ça place ce qui, je pense, n'est pas forcément le cas de pour la plupart des profils créatifs, comme tu disais tout à l'heure, de placer ta création comme le voir comme un produit en fait, plus que de la création, le voir comme un produit ou un service qui répond vraiment à des demandes. Je suis en train de me demander si c'est peut-être pas ça, le fait qu'on voit trop la création comme quelque chose de sacré, qui fait que beaucoup de profils artistiques ont du mal ou n'aiment pas se vendre. Je pense que ça peut être un critère qui joue là-dedans. C'est intéressant comme approche, ça change de...
J'ai l'impression que les écoles participent à ça en plus.
Ouais.
Et puis, c'est aussi normal quand on fait ces métiers, on a la sensation que c'est lié à soi, que c'est tout à fait personnel.
Ouais.
On en oublie que c'est de l'art appliqué et que derrière il y a des commandes, que c'est des clients, que s'il n'y avait pas ça, de toute façon, ces métiers n'existeraient pas.
Ouais.
Et que la grande différence, moi, j'ai fait dans ma scolarité, en partie, l'EPSA, c'est une école parisienne qui forme aux arts appliqués, mais qui a la particularité, c'est une école publique, d'accueillir enfin, dans ma promo, en tout cas, il y avait vraiment de vrais talents, de la peinture et du dessin, et certains aujourd'hui font des carrières complètement éloignées de l'art appliqué. C'est des plasticiens, c'est des peintres
Ouais,
et
donc des artistes, quoi.
des artistes. Ouais, pour le coup, eux sont vraiment des artistes. Et là, la démarche, elle est complètement différente.
Ouais.
Alors, évidemment, il faut pouvoir trouver des mécènes et réussir à se vendre, mais on distingue bien là tout le gap qu'il peut y avoir entre un graphiste, quel qu'il soit, DA, Motion ou compagnie, dans le web ou pas, et un travail de plasticien, d'artiste, de
Ouais.
peintre, ça n'a rien à voir.
Et en même temps, je me demande, parce que bah, forcément, cette singularité, etc., et ta patte que tu cultives quand tu es à l'école, qu'est-ce que tu penses du fait que, tu vois, moi, je me dis, quelque part, c'est quand même important, j'allais presque dire indispensable, mais je sais pas, important de cultiver ça, parce que bah, aujourd'hui, des graphistes, il y en a de plus en plus, notamment en indépendant, et du coup, c'est un facteur différenciant aussi pour toucher une autre forme de clientèle. Mais après, peut-être que la dissociation, c'est de se dire, ben voilà, j'ai mes projets personnels qui sont ma patte, qui sont ma création, qui sont presque un outil marketing pour attirer les gens et se dire, ah, tiens, ça c'est intéressant. Et ensuite, quand tu vends une commande ou donc le produit création, là, tu adaptes plutôt à la demande, t'en penses quoi?
Je pense que de toute façon, on ne peut pas faire le travail d'un autre. Que très naturellement, on va faire ce qu'on sait faire
Ouais.
avec son style, son expérience, ses affinités. Certains vont aimer passer par le crayon, d'autres vont directement attaquer à la machine. Certains vont être plus à l'aise dans le vecteur, d'autres dans le pixel, certains dans le
Ouais.
digital, d'autres dans le print. Et en fait, on le fait très naturellement. Donc de toute façon, on ne fera jamais le travail d'un autre. On serait mauvais si on
C'est
essayait de
clair.
copier le voisin. Donc par défaut, on fait son job. L'important, c'est de savoir s'en détacher suffisamment pour répondre aux clients quand on est free et tout simplement développer
Ouais.
son activité comme ça.
J'aime beaucoup dire, parce qu'effectivement, je partage entièrement ton point de vue. J'aime beaucoup dire que de base, en tant qu'être humain, on est déjà unique. Donc forcément,
Ouais,
ça
tout à fait.
s'infuse dans notre travail. Et du coup, si tu arrives à créer une offre, des prestations en tant que freelance qui sont simplement la traduction de toi en tant qu'être unique dans un travail, bah forcément, personne peut faire ça mieux que toi.
Oui,
Personne ne peut être un
complètement.
meilleur toi que toi.
Complètement. La multiplication des outils, des possibilités, en plus, elle participe à ça.
Ouais, complètement.
C'est-à-dire que ça, il y a
Chacun a
aujourd'hui une
sa méthodo
multiplicité des
perso, quoi.
profils. qui est phénoménal.
Et moi, je trouve que cet axe-là, il nous montre que potentiellement la concurrence a aucun lieu d'exister. Parce que bah, chacun va trouver, si tu arrives à vraiment bien faire ça, le bon client qui correspond exactement à ta manière de faire les choses et ta vision, avec qui du coup tu vas développer une relation pérenne, parce que lui il vient pour toi
Ouais.
et pas pour ton voisin qui essaye de faire du toi.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Ouais, ça te parle aussi?
Ouais, complètement. L'erreur, c'est de vouloir faire exactement comme les autres. C'est de s'imaginer que parce qu'un tel réussit en faisant cela, souvent on peut jalouser le succès de certains et se dire que la solution, c'est peut-être de faire la même chose.
Ouais.
Lui, il réussit là-dedans, il y a du business, il développe bien, donc je vais faire pareil. Et puis, même si c'est pas ce pourquoi je suis le plus doué, même si c'est pas ce que j'avais dans les tripes, vu que ça marche, vu que ça fait du biz, bah, je vais y aller, et puis moi, j'aurai le même succès. Bah, ça, c'est évident. Enfin, il me semble évident que ce sera voué à l'échec. Il y a très peu de chances que ça aboutisse, puisque de toute façon, dès qu'on est dans l'effort, dès qu'on est dans la contrainte, on a peu de chances d'être dans la réussite. J'ai eu une discussion récemment, j'ai une de mes sœurs qui m'avait orienté là-dessus. Là, c'est plus une philosophie de vie, c'est de considérer que il faut être aussi dans une forme de fluidité. Surtout dans les métiers créatifs. Si on doit être toujours dans l'effort et dans la contrainte d'apprendre quelque chose, de se forcer à faire, on sort pas ce qu'on a de mieux.
Ouais.
Donc peut-être de manière un peu humble, il faut se contenter de ce qu'on sait faire le mieux et le pousser à l'extrême.
Et travailler comment le vendre, du coup, en tant que produit, plutôt que d'essayer de prendre des produits qui sont déjà vendus ou vendables et
Ah
te dire
ouais,
je vais faire la même
complètement.
chose, quoi.
Et d'ailleurs, juste un dernier détail là-dessus, c'est j'ai beaucoup remarqué ça. Justement, dans la multiplicité des supports. Alors moi, je viens d'une époque où c'était beaucoup de print. Il y avait,
Ouais.
c'était les débuts du digital, et évidemment, la part était très faible. Aujourd'hui, ça a évidemment explosé. Et puis, c'est ajouté à ça encore tout le travail qu'on a en motion design, le social media qui est encore plus récent. Et je vois des profils autour de moi qui essayent de démultiplier leur savoir-faire. Ils sont des apprentis, puis ils se disent que là, évidemment, la carrière, le virage du digital est essentiel, donc ils y prennent part, et ça, c'est plutôt normal. Mais en même temps, le motion se développe, donc bah tiens, je vais aussi apprendre le motion avec
Ouais.
After Effects. Et puis le social media, c'est important, bah tiens, je vais aussi apprendre à faire un peu de social media, etc., etc. Et en fait, on crée des profils qui sont
Très
complexes,
généraliste,
parce
quoi.
que ouais, en fait, il est compliqué, moi je trouve, hein, d'avoir une expertise partout. Il faut distinguer la technique en plus de l'expérience, apprendre tout ce savoir-faire sans en avoir le recul,
Ouais.
c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de développer ce dont on sent qu'on est le plus performant, le plus doué, en considérant le reste, hein, ça veut pas dire écarter le reste,
Ouais, bien sûr.
mais plutôt que de vouloir savoir tout faire. C'est dire, bon, moi, c'est là où je me débrouille le mieux
Ouais.
et je vais essayer de devenir un expert là-dedans, sans avoir des œillères, mais voilà.
Ce que je trouve un peu intéressant là-dedans, effectivement, c'est bah, t'as ton point de focus, qui est ce pourquoi tu vas pouvoir attirer les gens aussi. Et je sais que toi, c'est quelque chose que tu fais derrière, c'est comment est-ce que tu peux mettre en place d'autres choses qui permettent de, quand cette personne, un client avec qui tu as développé une relation, tu peux lui apporter encore plus parce que forcément, il va avoir plus de besoins derrière.
Ouais, alors
Et
ça,
toi, je
c'est
sais que c'est quelque chose que tu fais dans... On en parlait l'autre soir, tu t'organises pour que s'il y a d'autres besoins ou des choses que soit qui ne sont pas ton expertise ou alors que tu veux tout simplement déléguer, bah avoir toute une équipe autour de toi, d'autres indépendants du coup dans ton cas, qui vont pouvoir t'accompagner dans cette mission, dans ce projet-là. Tu peux nous en parler un peu de...
Ouais, ça, Tom, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, pour le coup, sur lequel j'avais vraiment envie de communiquer.
Ouais.
J'en parle beaucoup déjà autour de moi, dans mon réseau de free, et même à titre plus personnel, dans d'autres secteurs d'activité que la créa et la communication. Et d'ailleurs, on en a parlé pendant ces jours. Et à différents problèmes, on entendait certains parler d'expériences difficiles avec certains clients, et la solution, elle est aussi là. Moi, je suis convaincu que l'idéal dans nos métiers de freelance, et ça rebondit, c'est exactement t'as bien fait
Le lien.
le lien, ça va avec le fait de se concentrer sur ce qu'on fait le mieux, et je vais même rajouter, je l'ai oublié, pourtant c'est essentiel, souvent ce qu'on fait le mieux, c'est ce qu'on aime le mieux faire en plus. Donc, se concentrer sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on fait le mieux, et ce qu'on ne sait pas faire, ou ce pourquoi on a assez peu de plaisir, plutôt que de se dire, bon, bah, ça, c'est du business que je perds, de considérer que parce que je suis freelance et que j'ai un réseau de freelance, je peux trouver des compétences pour ça. C'est de considérer que chaque aspect d'un travail, finalement, trouvera son expert, trouvera la personne idéale pour le faire. Et moi, je fonctionne comme ça. Alors, c'est peut-être parce que j'avais 10 ans de métier qu'il était plus simple d'avoir le réseau, d'avoir aussi la crédibilité. Un projet qui va nécessiter plusieurs corps de métier, c'est un projet qui est sans doute plus ambitieux. Donc, faut déjà avoir des clients qui nous confient des projets plus ambitieux. Mais ça, on peut les amener à le faire. On
Complètement.
peut les rassurer, leur dire qu'on n'est pas que DA, qu'on n'est pas que CR, qu'on n'est pas que motion designer, d'avoir une approche plus globale du sujet et de considérer que sans être structuré comme une agence, il existe tout un réseau de compétences, de professionnels, qui peut suppléer à ça.
Ouais.
Et moi, j'ai, dès le départ de mon activité, voulu mettre ça en place, tout simplement en acceptant tous les projets, les plus ambitieux qu'ils soient, et en sous-traitant, dès le départ, les tâches, alors, dont certaines d'ailleurs, j'aurais pu m'occuper. Par exemple, je fais un peu de motion, mais je sais très bien que, par rapport à quelqu'un, on sait le métier. C'est un vrai métier. Chaque métier est un
Complètement.
métier à part entière. On peut tous être un peu motion, un peu CR, un peu ceci, un peu cela.
J'aime bien l'image
C'est des
que
métiers à part entière.
pour tous ces métiers-là, tous, c'est un peu comme des poupées russes. Tu vas prendre le premier niveau et tu vas dire, OK, c'est bon, maintenant je maîtrise ça. Et ensuite, tu vas découvrir qu'il y a un autre niveau
Ah, c'est
et un autre niveau et
certain,
un autre
mais
niveau et un autre niveau.
à un
On le
tel
voyait,
point.
je discutais avec Rémi hier sur le SEO et il me montrait un peu les choses et je voyais la profondeur à laquelle il y va parce que lui, il fait ça au quotidien, tous les jours.
C'est clair.
Et moi, je maîtrise genre les bases de chez la base, quoi, rédiger un article, penser, OK, tel mot-clé, machin, faut les placer. Mais quand tu vois le niveau de profondeur que tu as quand tu le fais vraiment tous les jours au quotidien, et ça fait que bah lui c'est un expert et il sera reconnu pour ça et il continuera. Et moi c'est quelque chose que je vendrai jamais. Et comme tu dis, j'ai pas vocation à le vendre. Mais par contre, quand on me le demande parce que j'aspire une demande client sur ce point-là, effectivement c'est du business à repartager plutôt que perdre, effectivement.
Oui, et le mot repartager, il est intéressant parce que on est une communauté.
Exactement.
Il y a le monde des entreprises, des agences,
Ouais.
qui elles-mêmes d'ailleurs aujourd'hui se développent de manière tout à fait particulière. Avant, on parlait par exemple de communication 360. On
Ouais.
voit bien le cercle. Aujourd'hui, on parle de communication intégrée. En
Oui.
fait, c'est quoi? C'est que les clients se sont rendus compte avec l'explosion des médias. Certaines boîtes qui étaient identifiées comme print, d'autres comme digital, d'autres comme ceci, elles perdaient du business.
Ouais.
Donc aujourd'hui, la plupart se vendent comme des solutions de communication intégrée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire confiez-nous toute votre communication et
Et
nous,
on
on
s'en
a des
charge.
pôles, on a des
Ouais.
entités qui vont considérer chaque aspect. Et on peut faire pareil en free.
Complètement.
On peut dire à son client, alors moi, tu me sollicites en tant que DA, mais tu as des besoins en CR, puis tu as des besoins en digit, par exemple, ou je sais pas, sur une 3D, pour parler de
Ouais.
choses très techniques. Eh bien, confie-le-moi, parce que, alors, évidemment, certains métiers sont plus simples pour coordonner. Un
Ouais.
métier de directeur artistique, de directeur de création,
Tu coordonnes
il
la
est plus
cohérence de tout
simple
le
de
projet,
quoi.
quoi.
Exactement, moi, j'ai plutôt un profil comme ça, donc c'est plus simple pour moi de coordonner, mais je pense que c'est valable dans d'autres. C'est de prendre ce projet, de faire finalement la partie qui nous incombe le plus, là où on est le meilleur, là où on prend le plus de plaisir. Et le reste, de se dire que pour que ce soit le plus optimal possible, on va le confier. On va le confier à d'autres freelances, spécialistes dans leur domaine.
Ouais.
Et là, on peut considérer qu'on aura du coup le meilleur résultat possible.
Complètement.
Si j'estime que je suis le meilleur DA pour le faire, que je travaille avec le meilleur motion designer si c'est un film, que je travaille avec le meilleur illustrateur 3D si c'est une 3D,
Ouais.
avec le meilleur illustrateur s'il me fait une illustration, finalement, j'optimise mon travail et j'ai en face de moi un client qui est forcément satisfait.
Ouais.
Alors, évidemment, l'interrogation là-dessus, et je l'ai constaté là en en parlant, c'est le business. C'est de dire, oui, mais alors moi, si moi je dois payer quelqu'un, du coup, je perds quelque chose.
Ouais.
Mais c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, imaginez qu'on va le faire à la place d'un vrai professionnel, déjà, ça nous prendra plus de temps. Le
Comme on n'aime pas le
résultat
truc, on va être frustré.
frustré, ça va être laborieux, ça va être
Ouais.
compliqué.
Ça va frustrer,
Le
ouais, plein.
client sera sans doute pas complètement satisfait, ou
Ouais.
en tout cas, il le sera moins que si c'est un vrai professionnel
Complètement.
qui s'en occupe. Et si on voit à plus long terme, c'est sans doute un mauvais calcul.
Ouais. Je trouvais ça, je lisais un article pile ce matin sur ça, un article de Seth Godin sur son blog où il disait que dans une prestation de vente, il prenait l'exemple d'un matelas, d'un sommier, et il disait, il y a deux parties. Il y a the important part, la partie importante qui est produire et créer ce matelas. Et il y a the hard part, la partie difficile, qui est de créer une relation avec le consommateur et de closer la vente. Et il dit, quand tu regardes ce genre de choses-là, quand tu achètes un matelas sur Amazon, Amazon touche 80, les 90% du prix que tu payes, c'est Amazon, et les 10% c'est le producteur. Parce que la création en tant que telle du produit, c'est la partie importante pour qu'elle existe, parce que sinon tu peux pas vendre. Mais la partie compliquée, la plus dure, et c'est là où forcément toi tu sors gagnant dans ce système-là,
c'est compliqué.
Créer la relation avec les clients, créer cette confiance-là, conserver la relation et le rendre satisfait tout simplement. Et quant à ça, et que tu as créé cette relation avec lui, tu peux faire produire plein d'autres gens et c'est toi qui es gagnant sur le long terme. Parce que je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, comme tu dis, c'est... Et ça revient à ce que tu disais aussi sur le fait de voir sa création plus comme un produit que comme une œuvre sacrée. C'est, j'ai une relation avec un client, j'ai envie de le satisfaire, j'ai envie de développer cette relation et qu'il atteigne ses objectifs avec moi. Désolé pour l'avion, pour ceux qui entendent l'avion ou l'hélicoptère, la Corse. Mais si tu développes cette relation-là, peu importe qui produit, au final, c'est toi qui es gagnant. Et c'est tout le business model des agences, au final.
Exactement. C'est comme deux toiles qui se tissent en parallèle. Il y a tout le réseau des agences structuré en entreprise. Et il y a ce réseau de freelance. Et on peut considérer les agences, les entreprises, justement, comme un tissu, un réseau bien connecté. Mmh. Et en parallèle de ça, des indépendants, qui sont justement des individualités et qui perdent en efficacité parce que c'est morcelé.
Ouais.
Si les indépendants se constituent en réseau, comme les entreprises, comme les agences, parlons plutôt d'agences que d'entreprises, finalement on a une vraie réponse.
Ouais.
On a une même capacité de réponse et de solution.
Ouais, carrément.
Et je pense que pour des annonceurs, pour tous les clients, c'est intéressant de considérer que un réseau de freelance peut être aussi efficace que ce que peuvent proposer aujourd'hui les agences constituées comme telles.
Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est un sujet qui vient régulièrement sur le podcast, c'est intéressant. J'ai un épisode avec un collectif de freelance qui s'appelle Lukum, spécialisé dans social media, mais c'est regroupé tous les métiers du social media sous un collectif avec que des freelances de confiance qui travaillent ensemble.
Collectif, c'est vachement bien.
Et j'ai un épisode aussi avec Patrick Charny qui parle de l'écosystème dont je fais partie, qui s'appelle Lab Company. Et c'est exactement ça, c'est plein d'indépendants structurés en écosystème avec plein de pôles différents pour répondre à tous les besoins de communication, marketing et design de nos clients. Et c'est exactement ce fonctionnement-là qu'on a.
Il y a une vraie crédibilité aujourd'hui. Les annonceurs, les clients,
On le voit,
aujourd'hui, font confiance.
Ils font vraiment confiance. Et ils sont très réceptifs d'ailleurs quand on porte ce message-là, de dire, d'autant plus que tu as une autre forme de proximité, en fait. Tu vois, moi, je le mets beaucoup en avant. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est la relation que j'ai avec mes clients. J'ai presque envie d'être leur collègue plus que leur prestataire. Ce qui fait que quand on pitch cette manière-là de travailler, par exemple, nous, avec l'écosystème, on dit on veut pas travailler pour nos clients, mais avec eux, tu crées une autre forme de relation où ils se disent, OK, une agence, c'est mon prestataire. Et parfois, il y a toute cette opacité sur les prix, des agences qui ont développé malheureusement pas toutes les agences bien sûr, pas que j'ai pas envie de taper sur qui que ce soit, mais certaines agences qui ont pu avoir des pratiques douteuses parfois sur les prix, qui font que il y a un lien de confiance qui se perd un peu. Et du coup je trouve que cette j'aime bien l'image de la tapisserie que tu utilises, fait que il y a un nouveau lien de confiance qui se crée avec ces écosystèmes d'indépendants là, et du coup clairement très porteur. Je vais arriver sur le point suivant, qui, encore une fois, je vois les liens se tisser que j'avais pas forcément vu dans nos conversations au long de la semaine, mais du coup, est-ce que c'est cette manière de fonctionner-là qui te fait te poser un peu des questions sur les prochaines étapes de ta carrière dont on parlait ?
Oui, j'avais même envie de dire que tout ça, je l'avais anticipé. Enfin, en tout cas, je l'avais intégré. Quand on se lance en free à 35 ans, surtout dans ces métiers-là, il y a beaucoup de techniques, ça change beaucoup. On réalise bien la concurrence, on réalise bien ces flopés d'étudiants qui sortent diplômés avec les dents longues pour bosser là-dedans. Évidemment, il y a de plus en plus de free. Alors, il y a de plus en plus de free, il y a également de plus en plus de boulot. Donc, faut pas s'imaginer que parce qu'il y a plus de free sur le marché, on va devoir se partager un même petit gâteau. Le gâteau grossit aussi au fur et à mesure que les freelances, le réseau de freelance se développe. Mais en effet, quand je me suis lancé en free, j'avais la sensation qu'il était important que je voie à long terme. et de considérer que la technique, que justement l'individualité allait avoir de toute façon, j'allais être confronté à des difficultés si quelques années plus tard, si j'anticipais pas un petit peu sur la suite de ma carrière. Donc le fait de donc moi je bosse beaucoup avec les agences, comme quoi les agences sont aussi des clients, hein, c'est
Ouais,
pareil, hein,
c'est pas que des compétiteurs,
mais ouais, c'est ça,
voire pas du tout
ça
des
peut être des
compétiteurs même.
compétiteurs dans, si, parce qu'aujourd'hui certaines agences sont pitchées en face de collectifs de free,
Ouais.
mais il y a aussi de plus en plus d'agences qui n'intègrent aucun créatif, qui sont des équipes de commerciaux et qui sous-traitent toute cette partie-là. Et là, un tissu de freelance trouve sa place.
Ouais.
Donc c'est aussi important de considérer les agences comme de vrais clients qui ont besoin aussi de tissu de freelance.
Ouais.
Une agence, c'est plus intéressant pour elle d'avoir un free entouré d'un réseau de professionnels, c'est plus simple à gérer, que de devoir gérer plusieurs individualités
Ouais.
et de elle-même faire la synthèse du travail de plusieurs freelances.
Ouais.
Donc c'est aussi intéressant quand les freelances se constituent un réseau, c'est aussi une réponse pour les agences.
Ouais.
Donc voilà, donc finalement de considérer aussi mon travail comme ça, de me dire je m'extrais un petit peu de ma propre production, j'essaye de récupérer des projets plus ambitieux, plus vastes et de faire travailler un collectif, c'est aussi me projeter dans l'avenir en me disant est-ce que quand j'aurai 45, 50 ans, j'aurai toujours envie de produire ou est-ce que finalement ma place elle sera pas plus évidente
Ouais.
en tant que justement en tant que coordinateur. Alors ça porte un nom, ça porte le nom de directeur de création quand on est en agence, c'est-à-dire savoir mutualiser les compétences, avoir un regard extérieur et se faire finalement aussi un peu plus le commercial, c'est-à-dire les ventes,
Ouais.
tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que sans m'éloigner de la prod, parce qu'aujourd'hui c'est une partie importante de mon activité, c'est de me projeter à suffisamment long terme pour me dire je vais petit à petit m'en éloigner, petit à petit trouver les talents les plus compétents pour faire tel ou tel aspect du travail,
Ouais.
et moi, trouver de plus en plus ma place en tant que coordinateur. Et cette possibilité de le faire en freelance, ça c'est génial, parce que ça
Ouais.
n'existait pas avant.
Ouais.
Tu le disais justement, il y a toujours eu des free. Dans les années 90, il n'y avait pas Photoshop, il y avait déjà des freelances,
Ouais.
et c'était à l'ancienne, et d'ailleurs, ils facturaient beaucoup plus. Certains le disent aujourd'hui, le
Ben
monde a changé.
oui.
Avec tout
J'ai
ça.
regardé Mad Men récemment pour la première fois, et déjà dans Mad Men, c'est les années 60. Bien sûr, c'est aux États-Unis, comme on disait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est plus répandu, mais il y avait déjà des freelances
Bien
qui
sûr,
faisaient des allers-retours dans Madison Avenue sur les différentes, dans les différentes agences. Donc c'est clair, c'est vieux comme le monde, on réinvente rien, en fait.
Oui, tout à fait. Après, quand même, les opportunités sont plus
Ça, je suis
importantes. J'ai
d'accord, par
l'impression
contre.
que, et c'est là où je voulais en venir, qu'elle est jusqu'à finalement assez récemment, tout un chacun accordait de la crédibilité à un freelance tant qu'il était un technicien.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un indépendant répondait à une tâche précise. J'ai pas cette compétence, je la sous-traite chez un indépendant.
Ouais.
Aujourd'hui, avec le changement des habitudes, des structures et toutes les possibilités qu'offre Internet, évidemment, on a plus de facilité à confier à un freelance cette possibilité justement de coordonner
Ouais.
et d'être un maillon essentiel d'un projet. Et ça, c'est très important parce que ça élargit largement le champ des possibles pour le freelance.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au-delà d'être un simple technicien, quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs, au lieu d'être un spécialiste, il peut être un des éléments coordinateurs, il peut être un des éléments qui sert à manager le projet. Et ça,
Ouais.
le faire en tant que freelance, je trouve, hein, que c'est assez nouveau, en tout cas beaucoup plus simple à faire
Ouais.
aujourd'hui. Et j'imagine que ce sera
D'autant plus.
d'autant plus dans une dizaine
C'est
d'années.
clair, il y a un sujet qui revient régulièrement dans toute cette sphère du freelancing où on dit faut passer de généraliste à spécialiste, comme tu disais, donc plutôt que de faire tout et essayer de tout faire, faut te spécialiser dans un domaine, puis développer son expertise là-dedans, être vraiment pointu, presque aller dans une niche, comme on peut dire dans le web marketing par exemple, have a niche, travailler pour un segment particulier, genre l'expert SEO des pharmaciens, enfin voilà, ce niveau de détail-là. Mais effectivement, je trouve que de cette vision, ce qui manque, c'est le fait de dire, en fait, ouais, à un moment donné, peut-être que tu vas plus produire, peut-être que c'est ça ton plan de carrière de freelance. Je fais un coucou à mon pote Alexis, qui a aussi un podcast qui s'appelle La Tribu Indé, et lui, il aime bien voir son métier et parler de son métier comme celui d'un artisan. Lui, il fait de la création de contenu et de la rédaction, du copywriting. Et du coup, lui, il voit bien, il aime bien genre la partie artisanale de ça, en fait. Mais je pense que du coup, c'est une question qui se pose de plus en plus. C'est bah voilà, là, j'ai une compétence à bien développer mon activité, à produire. Mais est-ce qu'un jour, je voudrais m'extraire de la production de ce que je fais ou pas? Parce qu'un artisan, au final, il va produire toujours.
Oui, et après, mais la réponse, on l'a pas tout de suite.
Ouais, c'est clair.
C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, les réponses, elles viennent avec les années, en travaillant.
En se découvrant, en ayant des nouvelles expériences.
Je pense, ouais, moi, à 25 ans, mon grand plaisir, c'était de faire de la DA. Je voulais être derrière Photoshop 8 heures par jour. C'était ça mon kiff. Je supportais pas de devoir faire autre chose, quoi. Et puis finalement, de plus en plus, j'ai eu plaisir à basculer vers la conception rédaction, à écrire, à des histoires, à j'avais déjà la sensation qu'il était important que mes créations aient du sens, enfin, quelque chose à raconter, qui soit pas juste une image. Mais j'avais pas forcément la nécessité de le traduire par des mots et de le vendre. Aujourd'hui, c'est l'exercice qui me plaît le plus, presque.
Ouais, ça
Avant
évolue.
même l'ADA, ce que j'aime aujourd'hui, c'est toutes ces étapes qui sont avant. C'est un autre métier, hein, c'est le métier de CR, mais finalement, les réponses, on les a pas dès le départ. C'est en travaillant d'année en année qu'on nos profils évoluent. Et c'est ça aussi d'ailleurs tout l'intérêt je trouve, de nos métiers, c'est que on fait pas le même job toute sa vie.
C'est clair. On peut
Et ce
changer
serait une
du jour au
erreur de se
lendemain.
dire, parce que je fais ça aujourd'hui,
Je ferai ça toute ma
je
vie.
ferai la même chose 40 ans. Je pense que c'est une erreur.
Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais tout à l'heure, c'est que dès le moment où tu te lances en freelance, tu avais déjà cette vision de te dire, je sens que de plus en plus je vais vouloir m'extraire de la production pure et dure. Comment est-ce que je prépare ça? Du coup, même 10 ans en avance, en fait. Et de conceptualiser, on en parlait tout à l'heure, concevoir ta carrière d'indépendant, un peu comme tu pourrais concevoir une carrière de salarié. Quand tu rentres en agence, tu sais que ta direction, c'est, pour la plupart, c'est ton cap, c'est de devenir directeur de création. En indépendant, j'ai eu l'impression que les gens ne le font pas assez. Ils se lancent et ils font les choses au quotidien, ils exécutent les missions, etc., mais sans aucune direction, ce qui fait que je pense qu'il y a énormément de freelance qui peuvent être freelance depuis longtemps, 5, 10 ans, qui juste tournent en rond, en fait, parce qu'ils n'ont pas défini de cap de où j'ai envie d'aller. Et donc forcément, on va découvrir plein de choses au quotidien avec les expériences, etc., et apprendre plein de trucs. Mais je pense, pour moi, en tout cas, je suis vraiment persuadé que si on n'a pas de cap, qu'on se pose pas la question de où est-ce que j'emmène ce truc-là, bah, au final, tu tournes en rond.
Ah mais genre complètement, et en plus c'est rassurant. Quand on a, alors il faut pas avoir, pareil, impossible d'avoir de réponse précise. La vie elle est pleine de surprises, et bien heureusement que on est capable de prendre des virages à inattendus. Néanmoins, quand on a un minimum d'objectifs, quand on sait un petit peu où on va, sans avoir d'ailleurs à le mouliner chaque jour, hein, quelque part on prend des décisions inconscientes qui tendent vers ça. Et c'est rassurant, parce que quelle est une des grandes problématiques du freelance, c'est un peu le nerf de la guerre, bah, c'est les revenus. C'est est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité aujourd'hui et demain? C'est toute la différence, et c'est d'ailleurs c'est empirique ça. Un contrat de travail, c'est un contrat qui lie une entreprise à un salarié. Et en France, encore aujourd'hui, on est protégé par cette chape qui est le CDI là, qui nous protège. Et c'est pour ça qu'on tend encore aujourd'hui
À le rechercher, entre
à le
guillemets.
rechercher, et que ça fait encore rêver. Mais c'est ça le truc, c'est la grande différence. Et même si on est le freelance, c'est pas la motivation première, n'est pas l'argent, c'est le mode de vie. D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous compris aujourd'hui. On est autour de cette piscine, dans cette baraque magnifique en Corse. Et ça, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de possibilité. Donc, ce mode de vie, il est essentiel. Néanmoins, l'argent, c'est pour un freelance, c'est essentiel, puisque si on n'a pas d'activité, on n'a pas de revenus. Et on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc,
Pas encore.
ça, c'est important de se sentir rassuré sur ses capacités
À se donner un cap, en fait.
à produire, et avoir un cap, ça sert à ça. C'est être rassuré sur, oui, mais demain, est-ce que j'aurai encore une activité?
Je pense que ça nous rassure nous, mais c'est aussi un grand élément de réassurance pour nos clients et les gens avec qui on va travailler. Tu vois, je m'intéresse beaucoup aux notions de leadership et à tout ce qui va autour. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le leader, c'est quelqu'un qui revient du futur et qui emmène les gens parce qu'il sait comment ça va se passer pour les 10 prochaines années. Et si tu arrives à montrer à tes clients,
voilà comment ça va se passer, déjà sur une mission où tu détailles tout et tu dis ça va se passer comme ça, voilà ce qui va, où on va aller et comment on va y répondre. Déjà ça, ça crée beaucoup de confiance. Mais si t'es capable de dire à ton client, voilà ce que j'ai envie de construire, est-ce que t'as envie d'en faire partie, viens avec moi.
Moi je suis complètement d'accord. Je trouve tu le fais toi d'ailleurs. Bah, ouais. On en a parlé, j'ai vraiment la conviction que tu le fais, toi. Tu amènes tes clients à s'interroger sur leur business et ouais.
Qu'est-ce que j'ai envie de construire pour mon activité. Bah c'est clair que c'est central dans le métier de stratégie de marque que tu les questionnes sur t'as envie de construire quoi. Aujourd'hui t'as tel produit, aujourd'hui t'as tel projet, mais j'utilise beaucoup le sujet de la raison d'être. Et effectivement, même pour nous, en tant qu'indépendants, faut clairement l'exploiter. Hein. J'ai fait l'exercice récemment avec mon groupe de soutien. On est 8 mecs, on a créé un petit groupe pour tous atteindre nos objectifs entre nous. Et on a fait l'exercice ensemble de se dire, bah, ok, dans les 5 ans, donc au bout des 5 ans, c'est quoi notre objectif prioritaire? Où est-ce qu'on a envie d'être? Et on s'est tous partagé. Et se poser ces questions et avoir cette clarté, c'est incroyable en fait, parce que c'est un super filtre pour au quotidien te dire, ok, est-ce que ça, c'est vraiment au service de ce que j'ai envie de construire pour ma vie, pour mon activité pro. Et ce filtre-là, je le trouve vraiment puissant, effectivement très rassurant pour soi, mais aussi pour ses clients.
Et les décisions qu'on peut prendre au quotidien, sans avoir à le mouliner chaque jour, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un poids, ça.
Non, c'est clair.
Ne penser tous les jours à qu'est-ce que je ferai dans 10 ans, ce serait impossible à vivre. Mais sans avoir à mouliner ça chaque jour, d'avoir cet objectif quelque part un peu nébuleux au fond de la tête, ça nous aide à faire des choix.
Ouais.
Et quelque part, la carrière, comme ça, encore dans la fluidité, justement, on poursuit sa carrière dans cette forme de presque d'évidence. Alors, il y a toujours des moments de doute, hein, quand on est créa, on doute beaucoup de ce qu'on fait. On a l'impression, du jour au lendemain, qu'on est mauvais. Et puis, le jour d'après, c'est l'euphorie totale.
Et en fonction de plein d'événements.
Et on sent le roi du monde. Ça, c'est propre à tous les créas. Et c'est difficile à vivre ça,
ouais, ouais.
Cette sensation d'être du jour au lendemain comme ça, de passer d'un état de grâce à des doutes terribles. Ça, c'est propre à nos métiers. Et je pense que d'avoir un minimum d'objectifs ou de savoir un peu où on veut aller, ça tempère un peu.
Ouais.
Ça tempère et même dans les moments de flou, on se dit bon, finalement, j'ai pas fait que des mauvais choix ces dernières années. J'ai orienté ma carrière comme je le souhaitais et malgré tout. Je suis le chemin de la rivière et je me prends pas trop de rochers.
Ouais.
Et voilà. Et comme juste pour rebondir sur le fait d'influencer ses clients, moi j'ai la conviction que justement quand on a cet objectif, on propose de nouvelles choses. Et vu qu'il y a encore tout à faire, parce qu'en effet le freelance et tous ces métiers sont en pleine mutation.
Constante
il y a
évolution, ouais.
Les clients, nos clients, qu'ils soient d'ailleurs des entreprises ou des agences, on peut les amener à changer. On peut les amener aussi à évoluer dans leur relation et tout simplement en tant qu'indépendant leur offrir des solutions qu'ils n'avaient même pas eux envisagées
complètement.
Et pour boucler sur ce dont on parlait précédemment, par exemple de faire travailler un réseau de freelance, moi j'ai observé chez beaucoup d'agences que c'était pas forcément un réflexe.
Ouais, ils y avaient même pas pensé,
elles me consultaient sur un travail précis. Et c'est moi qui leur ai proposé finalement d'en prendre plus, de faire travailler mon réseau et naturellement ça s'est fait et ça continue et c'est une collaboration, un type de collaboration qui fonctionne et j'ai la conviction que j'ai participé en tout cas à les amener à ça aujourd'hui. Peut-être qu'ils le font avec d'autres également, mais que c'était un réflexe qui n'était pas évident et aujourd'hui c'est complètement intégré. Ces agences-là intègrent complètement la possibilité de confier un indépendant une part non négligeable d'un projet et que lui-même s'occupe de trouver toutes les compétences
et de gérer
pour le développer, du print digital, de l'exécution à la 3D. Voilà, donc on peut nous aussi amener ses clients à évoluer
complètement
à travers justement les objectifs qu'on se donne.
Le temps tourne, j'ai une dernière chose dont j'ai envie de parler avec toi justement qui fait lien avec ça. L'autre soir, tu disais que dans cette volonté-là et ce cap que tu as donné à ta carrière de t'extraire un peu plus de la production, commencer à être plus dans ce rôle de coordinateur dont tu parles là, tu parlais de potentiellement changer de forme, aller plus vers une forme de... pas un business qui est autour de Alex Montbrun, mais qui est plutôt une forme d'agence ou quelque chose que tu pourrais monétiser derrière aussi. Est-ce que ça, du coup, c'est un cap que tu avais déjà quand tu t'es lancé en freelance en disant, ben voilà, la direction que je prends, c'est celle-là, et ça pourrait prendre cette forme dans le futur? T'en es où sur ça? Ou c'est une question aujourd'hui?
Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand je me suis lancé en free, je soupçonnais pas que ça allait devenir une telle évidence, que le mode de vie freelance, le statut de freelance allait se développer autant. J'avais pas vu ça. Et du coup, j'avais évidemment en tête à l'époque, et même d'ailleurs au début de ma carrière, pour moi, le schéma le plus évident était de créer une entreprise. C'était je suis salarié, et puis dans 20 ans...
J'aurai ma boîte.
Voilà, j'aurai ma boîte. C'est-à-dire, je change de côté. Je suis salarié d'un patron, et puis dans 20 ans, je suis le patron de mes salariés. Parce que finalement, l'ensemble des possibilités qu'offre le freelance n'était pas encore assez développé. Aujourd'hui, il y a encore un peu de ça. C'est pas quelque chose que j'exclus de monter une structure plus classique du coup. Néanmoins, je m'interroge de plus en plus sur la possibilité de faire exactement la même chose sans ce statut-là justement. Pourquoi ? Même pas pour des questions de contraintes administratives, financières, de statut, de tout ça, de charges. Est-ce que je paierais plus de charges autres ? On peut se poser ces questions. Moi, je me les pose. Pour le coup, je connais bien tout ça. Mais c'est même pas ça. C'est tout simplement quelle relation je veux avoir avec mes collaborateurs. Est-ce que je veux avoir une relation de subordination ? C'est-à-dire, est-ce que demain, je veux accepter d'être le boss et d'avoir des salariés ? Et il y a même, aussi sympathique soit-il, un boss reste un boss. Et quand on est chef de son entreprise, on ne peut pas s'empêcher d'avoir cette relation de subordination. Et quelque part, ça vient fausser les relations. Il y a toujours une ambiguïté qui s'installe. À partir du moment où on est dans une collaboration qui n'est pas liée par ce type de contrat, c'est très différent. Et par les possibilités qu'offre le freelance et de la manière dont tous ces métiers se développent dans ce statut, je me dis, est-ce que je ne peux pas faire la même chose qu'une agence, qu'une entreprise, quelle qu'elle soit,
sans
être structurée comme ça. Et du coup, j'évite les contraintes de la subordination. Et finalement, c'est développer à l'extrême ce dont je parlais précédemment. C'est être un coordinateur et m'extraire complètement, pour le coup, de la prod. Évidemment, il y a la valorisation qui crée la différence. Tant que je suis dans ce modèle-là, je suis au cœur d'un dispositif où, si je ne suis plus là, ça ne fonctionne plus. L'intérêt de monter une entreprise, une agence, c'est évidemment de trouver toutes les compétences pour faire ce travail-là, valoriser une structure. Et plus on arrive à s'extraire de la valorisation d'une structure, plus, là je parle de très pragmatique, hein, de finance, plus donc on s'extrait de la valorisation d'une entreprise, plus finalement elle aura de la valeur à la vente. C'est comme si vous vendiez... une activité de poterie où vous êtes vous-même le potier. Si vous la vendez et que vous dites non mais moi par contre j'arrête, après j'en fais plus, l'entreprise ne vaut presque plus rien. C'est pas les quelques sacs de terre et les murs qui ont de la valeur, c'est évidemment le savoir-faire de l'artisan. Si vous êtes ce potier mais que vous avez trouvé trois personnes pour faire exactement votre travail, que vous êtes la personne qui les a formées et que vous vendez votre entreprise, là elle a de la valeur. Donc c'est toute la différence. Et là, on parle d'argent, c'est comment je veux valoriser ça et comment je veux pouvoir, moi, tirer des bénéfices.
Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se demander, est-ce que c'est possible, sans être dans la structure entreprise, agence, mais tout en gardant le même fonctionnement, de créer cette forme de valorisation?
C'est une vraie question. J'ai pas encore la réponse. Et justement, je suis en train de voir si ça, c'est possible.
Faire à suivre.
De créer de la valeur sans ça.
Intéressant. On va arriver sur les dernières questions rituelles du podcast, du coup.
Ouais.
La première, qui est une forme d'histoire, encore une fois,
c'est les courgettes. J'adore la plancha.
C'était pas cette question. Mais cool de le savoir. On en fait tout à l'heure d'ailleurs. C'est quoi ta plus grande galère dans ta vie de freelance, donc dans les 6 dernières années de ton activité de freelance, ta plus grosse galère?
Alors là, je vais nuancer. Je n'ai pas vraiment eu d'énormes galères. Je pense que c'est lié justement à 10 ans de salarié avant, où on prend beaucoup de recul. Pour le coup, j'ai vachement plus morflé quand j'étais salarié, parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes avec la hiérarchie, et puis la structure d'agence, les horaires à rallonge, ça m'a vite saoulé. Donc, j'ai eu l'impression de beaucoup plus souffrir en agence. Donc, quand je suis arrivé free, et depuis ces quelques années que je suis freelance, globalement, c'est quand même
plutôt cool,
beaucoup mieux. Donc, j'ai pas vraiment une grosse galère. Par contre, j'ai eu des galères, je vais en citer deux, qui sont d'ailleurs des cas d'école, donc c'est pour ça que je vais en parler, c'est intéressant. Premier cas, on le craint tous, c'est le client qui paye pas. On se demande est-ce que ça va m'arriver, est-ce que ça va pas m'arriver. Alors, des fois, ça arrive sur des petites sommes, moi, ça m'est arrivé sur plusieurs milliers d'euros. Bon, voilà, ça m'est arrivé une fois. Une boîte qui tombe en redressement, liquidation, et je suis pas payé. Ça c'est terrible parce qu'on se dit j'ai fait le job
ouais.
Et au final j'ai l'impression de me faire flouer par une boîte qui me l'a fait à l'envers. Ça c'est les risques du métier de free. Ça c'est certain que quand on est salarié
ça n'arrive.
Ça bon, n'arrive ça peut pas. Arriver, on peut mais... se faire virer mais dans ce cas-là on a des protections. Mais quand on est free c'est tout à fait différent. Quand un client ne paye pas il y a personne pour vous payer à sa place. Donc ça c'est la première galère. Alors j'ai envie de dire il faut juste être vigilant sur les clients avec lesquels on bosse. Si peut-être un détail que préciser mon comptable, moi j'ai tendance à laisser traîner, à attendre des fois 6 mois avant de me faire payer. J'ai la chance d'avoir une activité qui marche bien, d'avoir de la trésorerie, donc je me pose pas la question. C'est comme ça que je me suis fait avoir en fait.
Ouais.
Et les mois sont passés, j'ai pas fait gaffe, et puis un jour la lettre est tombée et j'ai compris que j'allais jamais être payé. Voilà, premier cas d'école, quand on n'est pas payé, comment on fait? Bon bah,
peut-être anticiper.
Le deuxième cas, pareil, si un cas d'école quand on est free, c'est le creux, le trou. J'ai eu la chance de bien travailler dès le départ et j'ai connu ce trou noir.
Tout d'un coup.
Ouais, c'était l'année dernière, alors que j'avais une activité constante, quotidienne. D'un seul coup, plus rien pendant 3 mois. C'était absolument inexplicable. J'avais, par le passé, d'énormes clients qui du jour au lendemain disparaissaient, mais en fait, naturellement, d'autres prenaient la place. Ce qu'on peut craindre quand on perd un gros client, on dit ouais mais si je le perds celui-là c'est foutu, pas forcément. En fait j'avais fait le constat que quand un énorme client se barre, un autre qui était un plus petit du coup va trouver plus de place, hein, comme un poisson rouge. On dit que le poisson rouge adapte sa taille au bocal. Bon bah là on en enlève un et l'autre va grossir d'un coup.
Ah c'est bien
de un espèce
ça.
De vase communicant comme ça, donc
sachant qu'on a un temps limité en plus, donc forcément on est peut-être moins impliqué et quand on se réimplique
exactement,
plus,
tout à fait.
Il y a plus de potentiel qui arrive.
Moi j'ai l'impression qu'il faut pas être trop justement apeuré de ça. Un gros client, tant qu'on est attentif, alors évidemment faut pas en avoir qu'un, mais un grand client qui se barre, c'est laisser la possibilité aux autres de prendre plus de place. Ça c'est intéressant, surtout quand le gros client est pas forcément celui qu'on préfère.
Ouais.
On se dit tiens est-ce que c'est pas bon. Non, là au-delà de ça c'est un j'ai pas encore la réponse. Pourtant, je fais de la veille, pourtant, je suis attentif, mais j'ai connu ce trou de 3 mois, sans rien du tout. Donc, pas 1 euro qui tombe en 3 mois. Alors, j'avais eu la chance de faire une très belle année avant. Peut-être que c'était quelque part un peu inconscient. Peut-être qu'on lève le pied. Peut-être que quand on fait une belle année et qu'on arrive au mois d'août, on se dit, bon, bah, finalement, j'ai déjà fait mon chiffre. Et si je prenais un peu de vacances, c'est que, inconsciemment, on se met dans un état d'esprit où on n'a pas envie de travailler.
Moi,
et
je pense. On attire moins, quoi.
Sans doute. C'est la seule réponse que je peux apporter à ce creux qui m'a du coup évidemment plutôt angoissé, alors que j'avais les finances, la trésorerie, hein. Mais je me suis dit.
Ouais, mais forcément, quand tu vois tout d'un coup pendant 3 mois rien,
c'est
tu
ça.
Te dis, est-ce que
dit,
c'est fini pour de bon?
Est-ce que ça va continuer comme ça?
Quand est-ce que ça reprend?
Je ne vais
bon
plus
sens.
Jamais avoir de contrat. Non, mais c'est fou parce que la question, on en vient à se la poser. C'est,
alors
est-ce que plus jamais.
C'est irrationnel de se la poser. Si tu,
et voilà,
surtout si ça fait 5 ans que tu travailles et que tout d'un coup, bon, 3 mois sans rien. Si ton cerveau était vraiment à 100% rationnel, tu te dirais, bah non, statistiquement, c'est pas possible, mais ça arrive quand
tout
même.
Tout à fait. Donc, évidemment, le boulot est revenu. Il est revenu en masse, en plus. Donc, voilà, je parlais de ça parce que c'est des moments qui étaient difficiles.
Ouais.
On se dit, et là, on se pose beaucoup de questions.
Ouais.
Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que jusqu'à, alors, ça, c'est, pour moi, j'en parle souvent comme le bout du chemin. C'est-à-dire, c'est quand on est au bout, ça va paraître, ça va en faire rire certains, mais c'est, et si je redevenais salarié?
Oh,
le truc
là,
horrible.
Ah ouais, moi, c'est vraiment la fin de la fin.
Ah ouais, là,
fin,
quand là. On se pose cette question, là, c'est qu'on est au bout, hein.
Ouais.
C'est que, il y a plus rien dans le frigo. on a déjà.
Et du coup, basé sur ces galères et toute la discussion qu'on a eue avant, si tu avais en face de toi, ton Alex plus jeune, qui devient freelance, qui se lève son premier jour, se met face à son ordi ou sa tablette, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Avec ces 6 années d'expérience, du coup, qui arrivent derrière.
Le conseil, bon, la première chose, c'est je lui ai dit, tu fais le bon choix. Je l'ai pas dit, je te dis juste, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de mettre en free. De toute ma carrière, et j'ai même envie d'être plus large, de toute ma vie. Parce que ça a influencé tout le reste. Si je me suis mis à tant voyager, c'est parce que je suis devenu free. Si j'ai pu pérenniser mon activité, continuer à avoir du plaisir, c'est parce que je suis devenu free. Si j'ai des capacités financières qui sont celles que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je suis devenu free. Quand on est salarié, on peut pas, sauf quelques rares postes, mais avoir comme ça une réussite.
Le mode de vie que t'as aujourd'hui, quoi.
Ouais. Donc ça, c'est la première chose. C'est je me féliciterai d'avoir fait ce choix-là parce que c'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée.
Bravo, Alex.
Et c'est bien, merci. Et je suis ravi de retrouver une communauté là comme aujourd'hui. Tu vois cette rencontre avec toi et avec tous. Mais c'est un tel plaisir.
Ouais.
Et je le vois, tu le mets en réponse. T'es quelle chance de faire ça. Mais oui. On insiste tous là-dessus, hein, mais quelle chance. Le conseil, d'être attentif à... Vraiment d'être attentif au talent des autres. De considérer encore plus le réseau et de fuir l'individualisme. Le free, c'est absolument pas un métier solitaire. Mmh. Et ça, c'est absolument antinomique. Freelance, c'est donc le parallèle, enfin le c'est ce qu'on donne comme nom comme indépendant, en fait, finalement. Le freelance est un indépendant. Indépendant, faut pas du tout s'imaginer que c'est...
Solitaire.
C'est solitaire. C'est tout le contraire. Et c'est peut-être la chose que je me dirais. Je fais attention, être freelance, c'est pas être solitaire. C'est pas... Sois vigilant sans cesse à ne pas t'isoler. Mmh. À rester en contact avec une communauté de free. À trouver des ateliers de coworking pour pas travailler seul chez toi.
Ouais.
À développer ce réseau parce que c'est une des grosses erreurs qu'on pourrait faire en se lançant en free, c'est de s'isoler. Parce que c'est l'isolement qui, de toute façon, tuera l'activité et le plaisir et même plus globalement, d'ailleurs, le statut. On perd tous les avantages du freelance quand on ne comprend pas que le freelance est avant tout, justement, cette liberté d'aller vers tous les autres.
Ouais. Entièrement aligné avec ça. Et du coup, pour clore, c'est quoi la question que tu as envie de poser à tous les gens qui nous écoutent depuis une heure pour que cette semaine, ils réfléchissent à leur activité de freelance?
Ah bah c'est... Je crois que c'est de les interpeller sur leur mode de vie, leur choix de vie. On l'a beaucoup dit, tu en parles beaucoup. Tous les freelances en font le relais. Être free, c'est... C'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, c'est une philosophie de vie. Enfin, c'est bien au-delà d'un choix professionnel. Mmh. Moi, j'ai la conviction d'avoir, en ayant fait ce choix à 35 ans, que ça a changé tout. Donc, j'ai envie d'interpeller les futurs free là-dessus dans leur. Dans
même ceux qui sont freelance depuis longtemps, mais qui sont pas freelance,
c'est de se
encore.
Poser la question, c'est quel mode de vie j'ai choisi, quel mode de vie je veux, quelle est ma philosophie de vie. Je prendrai l'exemple, et là, peut-être que ça va interpeller certains. Notamment, peut-être, si des gens que je connais écoutent ce podcast et qui sont dans ce cas-là. Mais je pense à tous ces indépendants freelance qui ne travaillent que pour un client sur site.
Ouais.
Moi, j'ai envie de les interpeller. J'ai dit, mais...
Est-ce que c'est le mode de vie que tu veux avoir?
Ouais. C'est quoi? C'est parce que ça gagne plus. Mais en fait, finalement, quand on voit les charges, tout ça, on se rend compte que c'est pas ça. C'est d'interpeller tout ça. C'est de bien considérer que... Et ça rejoint ce que je disais avant... Être freelance, c'est beaucoup d'opportunités. Ça change beaucoup de choses et il faut bien en saisir tous les contours pour l'apprécier pleinement. Et au-delà de ce que ça peut me rapporter en argent, au-delà de ce que ça peut me rapporter en temps libre, c'est bien au-delà de ça. Mmh. Parce que il est facile de mettre de côté ces questions quand on a 25 ans. Quand on en a 40 et qu'on a 15 ans de freelance, je t'assure que c'est plus compliqué.
Ouais.
Parce qu'on a la crainte viscérale, et ça, c'est les questions qui arrivent avec la parentalité, la retraite,
ouais,
qui du coup mettent à défaut le statut, parce qu'on se dit oui, mais moi, il faut bien que je paye ma maison, il faut bien que je nourrisse mon gosse. Ça, c'est tout à fait possible quand on est free, si on a compris que.
Du coup, c'est de toute urgence pour tous ceux qui nous écoutent. Posez-vous la question dès maintenant, quand vous coupez cet épisode, quel est le mode de vie que vous voulez avoir et comment est-ce que vous pouvez le nourrir grâce à votre activité de freelance?
Tout à fait, ouais. Et ne pas en avoir peur et l'accepter pleinement avec ce que ça a de ce que ça peut avoir de difficile,
ouais.
Mais aussi tout
ce qui est beau derrière,
tous les plaisirs, avantages, toutes les possibilités qu'on peut en retirer.
Merci beaucoup pour cet échange, Alex. Est-ce que il y a un endroit où les gens peuvent venir interagir avec toi, te retrouver, discuter avec toi?
Alors là, tu vois, j'ai une réponse qui est, mais je te remercie, c'est que moi, c'est à travers, tu vois, les rencontres que j'ai fait sur ce séjour que je réalise l'importance de partager, de communiquer. Peut-être que d'ailleurs, je constate que à 40 ans et qu'on expérience, j'ai peut-être ma place. Tu sais, je m'en étais extrait de ça. Hein. Moi, je suis pas d'une génération où il était évident de parler de ce qu'on faisait avec un peu d'humilité. Je me suis dit, bon, mon expérience, je la garde pour moi, ça intéresse qui? Et en fait, en parlant, je voyais que j'avais des gens attentifs.
Ouais, bah ouais.
Et je me dis, tiens, peut-être que... Et là, c'est une révélation pour moi. Tu vois, tes podcasts, je vois que plusieurs personnes ici sont dans cette expression publique.
Ouais.
Et ça m'intéresse beaucoup. Donc moi, j'ai rien aujourd'hui pour ça. Mais je vais y réfléchir parce que je trouve que c'est
donc en attendant,
je trouve que c'est très enrichissant.
LinkedIn pour voir.
Voilà, de manière un peu classique, LinkedIn, Insta et tout ça. Ouais.
Très bien, merci beaucoup et merci à bientôt sur le podcast pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, carrément.
J'espère que cet épisode t'a plu et que tu en retires de nouvelles questions pour réfléchir à ton activité et à ta vie de freelance. Si tu as également écouté l'épisode 16 avec Florian Schweck, tu commences sûrement à intégrer l'importance que j'accorde à cette réflexion holistique qui mêle travail et mode de vie ensemble dans un tout uniforme. Et comme tu l'as entendu, Alexandre insiste de nouveau sur cela dans sa question de fin d'épisode. Quel mode de vie tu souhaites avoir et comment tu construis ta vie de freelance pour pouvoir vivre ça? D'ailleurs, je suis super curieux de participer à tes réflexions sur ces sujets-là et de savoir ce à quoi cela ressemble pour toi. Un mode de vie idéal. Du coup, n'hésite surtout pas à m'écrire par mail à hello@thomasburbidge.com pour me raconter tout ça parce que vraiment, sincèrement, ça m'intéresse de savoir. D'ici là, à ce que je te lise par mail, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.